Bonsoir à tous. Un nouveau samedi de la colère en France. Des milliers de personnes dans les rues contre le racisme et les violences policières. À Paris, le cortège et le comité Adama Traoré ont été bloqués plusieurs heures. Place de la République, des tensions ont éclaté il y a quelques minutes. On retrouvera Boris Allier sur place dès le début de ce journal. Et puis on entendra l'une des organisatrices de la mobilisation à Lyon cet après-midi. Dans ce journal, des soupçons de fraude électorale à Marseille chez les LR. Le Rassemblement National saisit le préfet de police. Le soulagement du secteur aérien, les frontières ouvrent lundi matin dans une partie de l'Europe. Et puis du tennis cet été en France, on vous dit tout sur ce nouveau challenge élite sur la Côte d'Azur.
France Inter.
Le week-end dernier, 23 000 manifestants contre les violences policières et le racisme en France dans la foulée du mouvement américain Black Lives Matter. Et aujourd'hui encore, nouvelle journée de mobilisation à Bordeaux, Nantes, Tours, Lille, une quinzaine de villes au total. Le fer de lance de cette contestation, c'est encore le comité Adama Traoré, du nom de ce jeune noir tué en 2016 après son arrestation. Comité qui appelait aujourd'hui à un défilé national à Paris, au départ de la place de la République. Boris Allier, bonsoir.
Bonsoir.
Les manifestants devaient rejoindre Opéra, mais finalement, Boris, ils sont restés bloqués par la police, place de la République.
Oui, ce qui devait être un défilé s'est transformé en rassemblement avec des milliers de personnes qui ont donc applaudi Assa Traoré. La figure du mouvement réclame toujours la mise en examen des gendarmes impliqués dans l'arrestation de son frère. Après, dit-elle, peut-être répondra-t-elle à l'invitation de la ministre de la Justice. Justice pour Adama, pas de justice, pas de paix, voilà les slogans de ce mouvement hétéroclite qui se revendique apolitique. Pas de parti représenté officiellement donc, mais des élus malgré tout présents à l'image de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui n'a pas manqué de dénoncer la décision du préfet de police de bloquer les manifestants. Des manifestants qui ont gardé globalement leur calme jusque-là et ce malgré les quelques lacrymogènes envoyés, malgré également la provocation de militants identitaires qui ont déployé une banderole sur le toit d'un immeuble. Justice pour les victimes du racisme anti-blanc, c'est ce qu'on a pu lire avant que les voisins ne la déchirent sous les applaudissements des manifestants.
Merci Boris Allier en direct de la place de la République pour France Inter avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. La police a tiré du gaz lacrymogène tout à l'heure et puis vous parliez de ces banderoles. 12 personnes ont été interpellées tout à l'heure en marge du rassemblement. Il s'agirait de sources proches du dossier de militants d'ultra-droite, génération identitaire et groupe d'extrême droite. À Lyon, ils étaient un millier à défiler devant la cour d'appel, le palais de justice historique, à l'appel du comité Vérité Justice pour Mehdi, ce jeune homme mort en 2015 après avoir tenté de forcer un barrage de police. Linda est membre du comité et coordinatrice du mouvement lyonnais. Elle répond à Mathilde Imberti.
Là, on se parle à nous et on se dit qu'il ne faut plus qu'on reste désunis, qu'il ne faut plus qu'on arrête de parler, que quand on parle, il faudrait peut-être continuer et rester dans la rue tant qu'on ne nous entend pas. Qu'il faut qu'on arrête de croire qu'en fait, il y a une démocratie, qu'il y a des choses dans les règles et que si on suit le bon chemin et qu'on est dans les clous, on va nous entendre et qu'on obtiendra justice comme n'importe quel bon citoyen français. Et ça, c'est un mythe. Et on ne veut plus y croire, on a arrêté d'y croire malheureusement, ça aurait été bien que ça soit ça, mais c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on a envie de s'unir et de dire stop, ça on n'en veut plus. On ne veut plus apprendre qu'on a tué nos enfants, nos pères, nos mères, nos sœurs. On ne veut plus de ça, on ne veut plus que nos frères meurent en prison. On ne veut plus de ces injustices-là au quotidien. Donc il faut que ça s'arrête et s'il faut rester dans la rue, on va essayer de s'organiser pour rester dans la rue.
Linda du comité Vérité Justice pour Mehdi à l'initiative de ce rassemblement à Lyon. Manifestation encore ce soir à 19h au départ du Vieux-Port à Marseille et puis demain ce sera à Strasbourg. Défilé antiraciste aussi à Londres aujourd'hui. Plusieurs centaines de manifestants ont été dispersés par la police près du Parlement britannique pour éviter des affrontements avec des militants d'extrême droite.
On vous en parlait hier soir à 7h06 sur France Inter. Des soupçons de fraude à la procuration électorale du côté de LR à Marseille.
Une enquête préliminaire est ouverte et ce matin, perquisition au local de campagne de la tête de liste LR municipale, Martine Vassal. Selon les révélations de France 2, l'une de ses colistières a proposé à des habitants de son secteur de se charger d'établir une procuration sans passer par la case commissariat, ce qui est illégal. Stéphane Ravier, le candidat Rassemblement National, a réagi à cette affaire. Il demande une enquête interne à la police.
Moi, j'ai saisi le préfet de police. Parce que, in fine, il faut bien que la procuration soit poinçonnée, soit validée par un officier de police judiciaire. Cet officier poinçonne, valide la procuration en toute illégalité. Tout porte à le croire, puisqu'elles sont validées, ces procurations. Donc il y a bien en bout de chaîne un officier de police judiciaire et il y a bien une brebis galeuse. Donc il faut que le préfet de police mène son enquête interne, identifie quel est l'indélicat c'est le moins que l'on puisse dire, officier de police judiciaire qui s'est prêté à cette fraude et que toutes les procurations qui ont été validées par cet officier soient annulées.
Stéphane Ravier avec Elisa Montagna de France Bleu Provence. La tête de liste Rassemblement National se retrouvera au second tour le 28 juin en face de Michel Rubirola à gauche, Martine Vassal pour les LR et Bruno Gilles et sa tête et sa liste d'hiver droite. Sous la pression des syndicats et de Bercy, PSA fait marche arrière. Le constructeur automobile renonce à faire venir temporairement des salariés de Pologne sur son site d'Ordain dans le Nord. Le groupe va faire travailler des intérimaires français à la place. On y reviendra dans le journal d'Yves de Caen à 19h. L'heure est à l'estimation des dégâts à Toulon au lendemain d'un impressionnant incendie sur le sous-marin nucléaire Pearl. Il a fallu 14 heures pour venir à bout du sinistre. Pas de blessés mais d'importants dégâts. Le bâtiment était en cale sèche pour rénovation. Il n'y a aucun risque à craindre pour l'environnement, a assuré ce matin la ministre des Armées, Florence Parly, qui s'est rendue sur place. Les mesures de pollution atmosphérique et de radioactivité n'ont relevé aucune anomalie. Le trafic ferroviaire interrompu entre le Puy-en-Velay en Haute-Loire et Saint-Étienne dans la Loire à cause des éboulements sur les voies au niveau de Voray après les pluies diluviennes d'hier. La vigilance orange a été levée pour la Haute-Loire. Seul le puits de Dôme est toujours en vigilance orange au cru. L'aérien souffle enfin en Europe après des mois de confinement, d'avions cloués au sol en France, en Belgique, en Grèce et en Allemagne. Rétablissement de la libre circulation dès lundi matin avec tous les pays du vieux continent. Une reprise saluée par Alexandre de Juniac, l'ancien patron d'Air France KLM, aujourd'hui à la tête de l'Association internationale du transport aérien.
Très bonne nouvelle, puisque nous avons préparé maintenant depuis des semaines le redémarrage du transport aérien. Et un des éléments qui bloquait ce redémarrage, c'était les restrictions au voyage et les fermetures de frontières. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et le secteur est prêt à redémarrer. Nous avons même travaillé avec les principaux gouvernements, les principaux acteurs du transport aérien, les organisations internationales, l'OMS, l'aviation civile internationale, à préparer les procédures de contrôle qui vont permettre de garantir que l'on vole sans risque excessif de contamination. Alors, nous avons un plan de redémarrage progressif. Donc, on commence par le domestique à la fin du deuxième trimestre. Là, maintenant, tout de suite l'européen qui suit au troisième trimestre et puis ensuite l'intercontinental au quatrième trimestre. Donc, le trafic, on pense, va remonter comme ça sur les prochains mois. On devrait atteindre 50 à 60% du trafic de l'an dernier à la fin de l'année. Nous estimons qu'on reviendra au niveau avant Covid en 2022. J'espère qu'on est pessimiste, hein, mais malheureusement, on ne voit pas les choses aller aussi vite qu'on aimerait.
Alexandre de Juniac avec Soisigbourg. Et voilà des images qu'on n'avait plus vues depuis des mois. Un stade plein avec des spectateurs sans masque et bruyants. 20 000 personnes ont assisté à un match de rugby aujourd'hui à Dunedin en Nouvelle-Zélande. Premier événement sportif majeur au monde à autoriser du public sans restriction. En France, c'est bientôt la fin de l'attente pour les joueurs de tennis. Ils pourront regoûter à la compétition dès le mois de juillet. La Fédération française de tennis a officialisé ce matin une tournée estivale organisée dans le sud de la France. Cédric Guillou.
La Côte d'Azur pour accueillir les meilleures joueuses et joueurs français de tennis. Le Challenge Elite, mis sur pied par la Fédération française, fera étape à partir du 6 juillet à Nice, Cannes et Villeneuve-Loubet. Une bonne nouvelle pour Lucas Pouille.
On est des joueurs, on est des matcheurs et on n'est pas les rois de l'entraînement. Quoi. Il y a un moment, ça va deux minutes, mais c'est bien, mais c'est pas, je ne vais pas m'entraîner 10 ans comme ça. Donc pour moi, c'est très important.
Ce circuit sera réservé aux 24 meilleurs joueurs français et aux 12 meilleures joueuses de l'Hexagone, comme la niçoise Alizé Cornet.
Juste retrouver un peu ce rythme de compète, réhabituer son corps, son mental à faire des matchs. Quoi.
Les matchs se joueront en 3-7 avec un super tie-break pour finir. Il y aura d'abord une poule de 3 avant de passer à un format plus classique avec des quarts de finale, des demi et une finale. La dotation totale pour cette tournée estivale sera de 300 000 euros. Nicolas Mahut est enthousiaste.
Même s'il y a un peu moins d'argent à redistribuer, c'est important pour relancer toute l'économie qui est autour parce qu'il y a les joueurs qui sont impactés, mais il y a tous les entourages, les entraîneurs, les préparateurs physiques. Donc c'est important de pouvoir proposer d'autres tournois, une alternative au circuit ATP.
Seule la surface sur laquelle se disputera ce circuit français reste pour l'heure inconnue.
Cédric Guillou pour France Inter. L'écrivain monarchiste et aventurier Jean Raspail est mort aujourd'hui. Il avait 94 ans, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont le plus connu, Moi Antoine de Tounin, roi de Patagonie en 1981. Prix du roman de l'Académie française, prix du livre Inter aussi en 86 pour Qui se souvient des hommes. Il se décrivait lui-même comme un ultra-réactionnaire attaché à l'identité et au territoire, farouchement opposé au métissage.
Merci pour ce journal, Alexandra Dubucheron.